Vous écoutez France Musique.
Oh, un coquillage. Oh, un bateau. Et puis encore un là. Deux, trois, quatre. Oh, c'est magnifique. Oh, encore un.
Ah oui, c'est magnifique, nous dit la dame sur la plage. Bonjour à tous, bienvenue dans nos plages. Nous sommes ensemble pendant une heure pour écouter plein de musique, dès que vous connaissez, dès que vous découvrirez, dès que vous ne connaîtrez pas du tout, et certaines peut-être que vous croirez connaître sans le savoir, ou l'inverse, on ne sait pas. Thank you. Peut-être aurez-vous reconnu un extrait du premier concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, mais bien réélaboré avec cœur et tout et tout. C'est une pratique courante chez Bach lui-même de se réemployer. Pas de la paresse, hein, on s'en rend bien compte. Hein, la réécriture est ici savante, très enrichie, rhabillée, on pourrait dire. C'était une cantate qui porte le numéro 207, Vereinigte Zwietracht. Traduit en français, c'est très moche. Jointe dualité des cordes alternées. Ça semble rien dire. En fait, c'est les cordes qui jouent, bien sûr, celles de l'orchestre. À côté, il y a même les timbales et tout ça. Pourquoi ? Pour glorifier le Très-Haut comme il se doit en début d'émission. C'est quasiment une obligation. Nous entendions là Philippe Hervègue avec le Collégium Vocal de Gand. De Bach à Beck, il n'y a qu'un pas. Beck, Kesako, compositeur allemand, né en 1734 à Mannheim. À l'époque, il y avait là-bas un orchestre absolument formidable. Beck a grandi dans cette ambiance-là. Il a été d'ailleurs élève de Stamitz, qui était le grand maître de l'orchestre de Mannheim. Suite à une affaire de duel, il a dû fuir l'Allemagne. Il s'est installé en France, à Paris d'abord quelques temps, et puis à Bordeaux à partir de 1760, où il a fait toute sa carrière là-bas. Compositeur germano-bordelais, oui, oui, c'est un sujet d'étonnement. Un autre que sa musique ressemble tellement à celle de Beethoven, pourtant écrite alors que Beethoven était un gamin. Écoutez ça. Thank you. C'était la symphonie en ré majeur, première de l'opus 4 de Franz Ignaz Beck. Je ne vous dis pas que c'est un truc absolument génial qu'on vient d'entendre, mais enfin, c'est quand même très étonnant. On est là en 1766, Beethoven n'est pas encore né, Mozart a 10 ans, Haydn est encore un compositeur galant. Et voici ce monsieur Beck qui nous fait une musique pleine d'accents, de rupture à la Beethoven déjà. C'était ici la Stadion de Francfort, dirigée par Michael Schneider. À suivre, une musique qui croustille un peu. Pour la qualité sonore, elle n'est pas bonne, vous allez voir. Mais ça vaut le coup de l'entendre, parce que pour le reste, c'est aussi un chant qui étreint une émotion considérable. Écoutez cela.
Gone. Somehow I manage living here alone. All day long you don't catch me weeping. But oh God help me when it comes time for sleeping. When it comes time for love a man walking out there, maybe in a strange town, God knows where, maybe in a strange place, hurrying and walking, listen to my blood and my bones, you're talking, listen to the blood in my hands and feet, finding you out in a far strange street, reaching and finding you there where you stand, asking, aren't you coming home, lover man, lover man, lover man, saying all day long you don't catch me weeping, but
bouleversant ce qu'on vient d'entendre, hein. C'était la voix de Lotte Lenya, ici sur une musique de Kurt Weill, bien sûr, c'est lui-même qui l'accompagnait au piano dans ce Lover Man. Plein de choses à dire sur ça, mais tout d'abord un petit clin d'œil, puisqu'il se trouve que je voyais un James Bond il n'y a pas trois jours, c'est ce qui m'a fait choisir ceci. Vous savez que Lotte Lenya a tout fait, elle a eu mille et une vies, et entre autres elle a fait un peu de cinéma, et c'est elle qui, dans Bon Baiser de Russie, essaie de flinguer James Bond, alias Sean Connery à coup de godasse. Mais oui, c'était bien elle qui joue à la fin de sa vie. Là on était beaucoup plus tôt, et elle était encore, avant tout, une immense, immense chanteuse, diseuse, conteuse, tout ce que vous voulez. Et ce qui était étonnant, c'est de se dire aussi que là, en 1942, à New York, Kurt Weill, qui vient tout juste de partir d'Allemagne, où il a été chassé par la pression nazie, a été obligé de transformer son style. Et tout en allant vers un style qui est celui de du musical américain, eh bien, il a gardé quelque chose du cabaret berlinois qu'il avait déjà tellement transformé lui-même. De quelle façon un art, finalement, nourrit un nouveau, tout en continuant à persister à l'intérieur de lui? Eh bien, c'est peut-être ce qu'on va entendre encore dans ce qui suit, toujours du Kurt Weill.
Als wir aber ausgestattet waren, Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin, und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Es war nicht wollte Kunst machen in dem Kabarett. In Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, nur das nicht.
C'est Brigitte Fassbender qu'on entendait ici dans cet extrait des Sept péchés capitaux de Kurt Weill. À ses côtés, l'orchestre de la Philharmonie de Hanovre, dirigé par Kurt Garben. Là encore, une musique de caméléon, Kurt Weill, bien sûr, génial dans le genre caméléonesque, qui nous fait une sorte de symphonie de Lieder avec ses Sept péchés capitaux. Enfin, bien revue et corrigée, là encore, hein, on n'est pas dans le chant de la terre ni dans la symphonie lyrique de Zemlinsky, mais pas loin, hein, quelque part, en faisant en quelque sorte mourir le genre et le faisant grimacer dans au même instant. On va poursuivre avec de la musique d'extérieur, si vous voulez bien. Après tout, c'est l'été, une sérénade composée pour une belle soirée d'été par Mozart. Le genre était tout à fait commun à l'époque, c'est certainement pas lui qui l'a inventé. Beaucoup en ont écrit avant lui et pendant. Ici, le mastoso qui ouvre cette sérénade. Alors, il faut se représenter un peu la mise en situation, parce qu'on est dans une soirée très, très bien, très soirée nocturne, quelque part en Autriche. Et puis arrive un moment ou un autre, des musiciens, on les entend marcher, on les entend pas s'accorder, ça a été fait normalement avant. Mais ce côté un petit peu solennel du début, eh bien, faut se le représenter comme ça. Les musiciens qui, au moment de jouer la sérénade, arrivaient les uns après les autres et se faisaient entendre de loin.
Thank you. Thank you.
Musique pour une douce nuit d'été, c'est Allegro Maestoso qui ouvre la sérénade en mi bémol de Mozart. De bons musiciens tout de même, oui, l'ensemble avant du Philharmonique de Berlin qu'on entendait ici. On va poursuivre avec du Händel, si vous le voulez bien. Bah oui, on peut ne pas être fanatique de ce compositeur. Après tout, il faut toujours chez Händel se passer 3 heures d'opéra auxquelles on ne comprend rien, interminable, avec des arias da capo qui se répètent tout le temps. Bah oui, mais enfin, toujours au milieu, il y a au moins un petit joyau. Sinon 2, sinon 5, les amateurs diront sinon 15, par opéra au moins. Voici par exemple, ici un duo entre Poppée et Néron. C'est dans Agrippine. Un duo célèbre dans l'histoire de la musique entre les deux mêmes. C'est dans le couronnement de Poppée de Monteverdi. Mais ici, en quelque sorte, la réponse du berger Georg à la bergère Claudio.
Oh,
Le beau duo du troisième acte d'Agrippine de Händel, c'était l'Académie für Alte Musik de Berlin, dirigée par René Jacobs. Et les voix, celles de Sune Im en Popée et Bejun Mehta, qui chantaient bien au ton ici. J'ai bien dit au ton. On parle souvent de la maturité sidérante du jeune Mendelssohn, 16 ans, lorsqu'il écrit l'octuore dont on va entendre le presto dans quelques instants. Avec une vraie question autour de cette maturité tellement sidérante. La plupart des autres humains, c'est-à-dire vous et moi, on se dit toujours qu'il faut une vie entière pour devenir soi-même, avec ce risque toujours, selon l'adage bien connu, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Eh bien, on a l'impression, chez des gens comme Mendelssohn, mais c'était pas le seul, Mozart déjà, que tout est donné immédiatement là. C'est pas qu'ils ont la maturité, c'est qu'ils ont pas eu justement à prendre de l'âge pour savoir les choses, pour être des compositeurs géniaux bien sûr, mais pour aussi comprendre la vie et du coup nous la traduire de la manière la plus immédiate. Ici donc, cet octuor par l'ensemble Exploration.
Thank you.
assez rugueuse, mais elle lui va fort bien, de ce presto d'extrait de L'Octueur de Félix Mendelssohn, son opus 20. C'était les membres de l'ensemble Exploration, un ensemble vraiment intéressant qui a été fondé il y a 20 ans déjà par l'un des violoncellistes qu'on entendait ici, Roel Diltins, avec la volonté d'appliquer aux œuvres un regard un petit peu différent de celui général, et puis aussi la volonté de collaborer avec les autres arts, entre autres avec la danse et les chorégraphes, puisqu'on les a vus aux côtés d'Alain Platel pour pas mal de spectacles assez mémorables. Comment ça, on a déjà écouté du Chopin hier? Bah oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez avec la beauté, hein? On va pas chipoter. Avec cette grande cloche interminable. Je ne parle pas du présentateur des plages de 15h sur France Musique. Non, non, la cloche qui referme ce 17e prélude de Frédéric Chopin, extrait de son opus 28, magistralement joué ici par Martha Argerich. C'était en 1977. L'un de ses disques les plus célèbres pour ses préludes, l'ajouter au même programme de manière très cohérente, bien sûr, ce qui est le 25e prélude du compositeur, son opus 45, séparé de ce grand recueil-là. Parfois une œuvre un peu méprisée, comme si elle n'était qu'un exercice de subtilité harmonique et de modulation. En réalité, c'est une véritable plongée dans les ténèbres que ce prélude en ut dièse mineure. Et les ténèbres, Martha Argerich, elle connaît ça très bien. Frédéric Chopin, le prélude de opus 45 sous les doigts de Martha Argerich. Et dites-moi, si on finissait cette émission par de l'opéra, ah bah ça, ce serait pas mal, oui. Alors j'ai choisi quelque chose, la scène du couronnement de Boris Godounov. Oh, c'est pas la chose la plus inconnue, mais elle est tellement grande, tellement belle, surtout lorsqu'elle est monumentalement et sauvagement dirigée par Claudio Abbado. Alors de quoi s'agit-il? Le peuple qui arrive dans les volées de cloches, là, de vraies cloches, et puis celles que représente l'orchestre aussi, les deux se superposent. Le peuple qui crie sa foi, son ardeur pour la Sainte Russie et pour le tsar Boris, arrivé du tsar en question, focus sur lui, tout d'un coup tout se tait et on le voit soudain littéralement s'effondre devant nous, l'usurpateur assassin pris déjà par la culpabilité qui va finalement mener à sa perte, qui se questionne sur ce qu'il est, les deux corps du roi, les deux corps du tsar peut-être, et puis retour du peuple et apothéose finale. Thank you. La grande scène du couronnement de Boris Godounov de Modeste Moussorgski. Nous entendions là Claudio Abbado avec plein de chœurs dont je ne vous dis pas quels ils étaient. Ils en avaient réuni, oh, pas des centaines, mais quelques-uns. Le Philharmonique de Berlin et en soliste dans le rôle de Boris Anatoli Kotcherga. Merci à Hélène Langlois, Jean-Claude Dieval, Raphaël Dor et Victor Buton. Je souhaite à tous une très très bonne journée à l'écoute de France Musique. Je vous retrouve demain pour d'autres plages dès 15h.